Bonjour à tous et à toutes. Le texte que nous avons lu est tiré donc de la lettre aux Hébreux. Nous ne savons pas avec une certitude absolue qui étaient ces Hébreux, sinon qu'ils étaient Hébreux. Nous ne savons pas, et avec encore moins de précision, qui est l'auteur de cette lettre, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il y a dedans. Les chrétiens auxquels cette lettre a été écrite par son auteur, c'était des chrétiens qui, visiblement, d'après le contenu de la lettre, d'après d'autres textes que nous n'avons pas le temps de lire cet après-midi, avaient connu l'Évangile, avaient adhéré à cet Évangile, avaient cru, avaient vraiment donné toute leur vie à Dieu, parce qu'il est mentionné même certaines persécutions qu'ils avaient subies. Il est mentionné un peu plus tôt dans la lettre qu'ils avaient même laissé tomber tout leur bien, qu'on leur avait pris tout leur bien sans doute, et qu'ils avaient accepté ce sacrifice avec joie parce que c'était des enfants de Dieu, parce que c'était des chrétiens. Mais dans le contenu de la lettre, l'auteur semble indiquer que ces hommes, certains d'entre eux, tout au moins ces chrétiens, certains d'entre eux, avaient connu le découragement et que probablement au moment où il écrit cette lettre, c'est à cause de cela qu'il leur écrit, parce que certains passent par le découragement, certains semblent avoir abandonné leur assemblée. C'est pourquoi il écrit quelque part dans le chapitre 12, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas votre église. Ces trois versets sont très importants pour nous parce que, tout d'abord, ils nous rappellent une chose. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas seuls. En tant que chrétiens vivant aujourd'hui, au 21e siècle, puisque nous y sommes maintenant bien installés dans ce 21e siècle, nous ne sommes pas seuls au monde. Peut-être que nous passons par des moments de découragement, peut-être pas aujourd'hui, mais nous en avons connu, nous en connaîtrons peut-être, je ne veux pas trop assombrir l'avenir, mais vous savez que le découragement fait partie de l'expérience humaine, et à certains moments nous sommes plus découragés, à d'autres moments nous sommes plutôt encouragés. On a l'habitude ici en France de demander toujours aux gens, quand on les salue, comment ça va ? Chaque pays a sa façon de se saluer. Et alors, 85%, 90% des fois, on répond simplement « ça va ». J'ai remarqué, quand j'étais pasteur à Paris, enfin je suis toujours à Paris encore aujourd'hui, mais j'ai été pasteur à Paris pendant 8 ans, dans une église dans le nord de Paris, et bien sûr je faisais comme tout le monde, quand les chrétiens arrivaient le matin, au culte du dimanche, je demandais « comment ça va ?». Alors, 90% des gens disaient « ça va ». Puis d'autres disaient « ça va ». Alors déjà, à la manière dont on le dit, à l'expression du visage quand on dit ces mêmes paroles, on comprend que ça ne va pas toujours. Alors au début, je ne disais rien, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, quand les gens répondent en disant « ça va », il faut que j'aille un peu plus loin. Et alors en allant un peu plus loin, bien sûr, je n'étais pas au bout de mes surprises. C'est vrai que c'est une formule. C'est une formule qui peut cacher toutes sortes de choses. Les chrétiens auxquels l'auteur de cette lettre aux Hébreux s'adresse sont des chrétiens donc qui ont connu, qui passent par le moment de découragement. Alors, donc l'apôtre leur dit, vous n'êtes pas seuls. Le texte commence par, puisque nous sommes environnés. Nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Qui sont ces témoins? Ce sont particulièrement ceux dont il est parlé au chapitre précédent. Alors nous n'avons pas le temps de lire les 40 versets du chapitre 11. Généralement, ils sont assez bien connus des chrétiens, puisque c'est le chapitre que nous appelons généralement dans nos milieux évangéliques le chapitre de la foi. On pourrait dire aussi le chapitre des héros de la foi, même si tous n'ont pas dû se considérer eux-mêmes comme des héros. C'était des hommes et des femmes qui ont réussi à traverser l'existence d'une manière plutôt heureuse, c'est-à-dire avec une certaine réussite, on pourrait dire, tout simplement parce qu'ils ont rencontré Dieu et qu'ils ont cru à ce que Dieu disait. Nous avons l'habitude de dire, et c'est vrai, que Dieu parle dans la Bible. Dieu parle parce que c'est sa parole. La Bible nous raconte tout ce que Dieu a faim, et certains pensent que la Bible est d'abord un livre de théologie, moi je crois que c'est, comme d'autres d'ailleurs, plutôt un livre d'histoire. C'est l'histoire de la relation que Dieu a toujours voulu entretenir avec les hommes. Et c'est l'histoire que Dieu aimerait vivre avec les hommes. Il aimerait que les hommes veuillent aussi entretenir avec lui cette relation personnelle. La Bible dit que Dieu nous a créés pour que nous puissions le connaître, vivre dans une véritable communion, relation personnelle avec lui, et pouvoir apprendre pendant notre vie à mieux l'aimer, à mieux l'adorer, à mieux le servir, et en ce faisant, à mieux nous épanouir. L'homme, dit la Bible, a été créé pour Dieu, et Dieu veut son bien. C'est ce que semblent avoir oublié donc ces chrétiens à qui est écrit cet épître, et c'est pourquoi l'auteur dit « Nous sommes environnés de gens qui ont vécu une existence comparable à la nôtre, mais qui, dans différentes circonstances, et il cite au chapitre 11 différents exemples, le temps nous manque cet après-midi pour pouvoir citer en détail ces hommes, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit par exemple, parle d'un certain Hénoch, qui en son temps avait décidé de vivre une vie différente des autres en s'approchant de Dieu et en croyant en sa parole. La Bible, le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, nous parle également d'un homme qui s'appelait Noé. Noé, en général, on le connaît un petit peu mieux, hein, l'histoire de l'arche de Noé. Tout le monde la connaît, les croyants comme les non-croyants. Noé, cet homme qui avait senti que Dieu lui avait parlé, qui avait entendu Dieu lui faire comprendre que quelque chose d'important allait se passer sur terre, et qui avait eu à cœur, parce que Dieu le lui avait demandé, de construire un bateau pour se préparer pour une grande tempête, une grande inondation, ce fameux déluge dont parle la Bible et que tout le monde connaît en général. Et Noé est donné en exemple parce que lorsque Dieu lui a parlé, et aussi étrange qu'ait pu paraître la parole que Dieu lui a dite, dans un monde qui n'avait jamais connu de déluge, Noé a cru, a fait confiance à Dieu. Et il a pu surmonter la crise qui est venue ensuite avec ce déluge et être épargné. D'autres exemples, et j'en cite encore deux peut-être, Abraham, que l'on appelle dans nos milieux le père de la foi, parce que c'est celui qui a peut-être incarné pour la première fois cette relation en détail. La vie d'Abraham est un long voyage dans le royaume de la foi en Dieu bien sûr. La vie d'Abraham est une succession d'étapes. Abraham commence par faire confiance à Dieu, et puis il connaît des hauts et des bas, comme je dirais tout être humain, et puis finalement il va découvrir toute la richesse de ce que Dieu veut faire dans notre vie, toute la richesse de l'amour de Dieu, parce que la Bible présente comme quelqu'un qui nous aime profondément et qui veut se faire connaître à nous. Il y a aussi l'exemple de Moïse qui lui aussi a cru à Dieu avec une vie riche d'aventures, riche d'expériences, depuis sa fuite d'Égypte où il avait voulu utiliser la force pour libérer ses compatriotes, jusqu'à l'expérience dans le désert où il a appris à s'oublier lui-même pour apprendre à compter sur Dieu, et puis ensuite bien sûr le retour en Égypte pour libérer son peuple par les armes de Dieu, par la puissance de Dieu et non plus par les armes de l'homme. Tous ces hommes et bien d'autres encore dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11 nous sont donnés, comme ils ont été donnés en exemple pour les premiers Hébreux, ceux à qui est écrite la lettre, tous ces hommes nous sont donnés en exemple pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas se décourager dans la vie. Et même dans la vie chrétienne, il ne faut pas se décourager. Alors, juste après avoir dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, de gens qui ont vu Dieu, qui ont connu Dieu, qui ont marché avec Dieu, pour reprendre une expression biblique, l'auteur de la lettre dit « Rejetons à cause de cela, parce que nous sommes environnés, précédés plus exactement de gens qui ont vécu cela, rejetons tout fardeau ainsi que le péché qui nous enveloppe très facilement. » Alors, on pourrait se dire « Mais quel fardeau ?» En fait, quand on regarde de près le texte biblique, vous savez que cette Bible qui est écrite ici en français a été traduite d'une autre langue, le grec, notamment pour ce deuxième partie, le Nouveau Testament. Et le mot fardeau dans la langue originale grecque est un mot très intéressant parce qu'il désigne plus précisément, je dirais c'est presque un terme technique, il désigne l'excès de poids, l'excès de chair, l'excès de gras que l'on peut laisser se développer dans son corps. Alors je sais que la plupart d'entre nous sont jeunes, ils n'ont pas ce problème. Vous savez, quand on commence à vieillir, alors c'est pas vrai pour toutes les personnes qui vieillissent, enfin nous vieillissons tous, soyons clairs. Même à 5 ans, à 10 ans, vous vieillissez déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis votre naissance. Mais c'est vrai qu'en avançant en âge, on doit faire très attention parce que c'est quelque chose qui peut se manifester plus souvent. J'ai remarqué que même chez les sportifs, et les sportifs, vous savez, n'ont pas en général 80 ou 90 ans, les sportifs professionnels, même les sportifs connaissent ce problème de prendre un peu de poids. Notamment, je pense par exemple aux coureurs cyclistes, pendant l'hiver, ils ne roulent pas beaucoup. Et certains ont tendance à prendre du poids, et lorsque reprend la compétition au mois de février, mars à peu près, après l'hiver, alors certains disent « j'ai pris quelques kilos cet hiver, alors je ne suis pas encore à mon poids de forme, il va falloir que je perde des kilos pour redevenir compétitif ». Eh bien, c'est un mot qui est sorti aussi du langage sportif, et qui parle de cet excès de poids que l'on peut prendre et qui peut nous empêcher d'être pleinement compétitif. C'est un mot technique donc. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, attention, en tant que chrétien, nous pouvons aussi être pris par cet embonpoint. Je vais employer une expression qui n'est pas très théologique, mais parler de embonpoint spirituel. Disons que pour le chrétien, il y a aussi des choses qui peuvent contribuer à lui faire perdre la forme spirituelle, si on peut garder ce langage sportif. Jésus a mentionné un certain nombre de ces choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin avec Dieu, qui peuvent nous empêcher de laisser développer notre foi. Je pense notamment à cette célèbre parabole, la parabole du semeur. Vous savez que dans cette parabole, Jésus parle de la semence, qui est la parole de Dieu, qui tombe dans le sol, qui est le cœur humain. Et Jésus dit que lorsque cette semence, cette parole de Dieu est entendue par les oreilles de l'homme, il y a des choses qui peuvent entraver son action. De même qu'il y a des terrains différents. Si vous semez, par exemple, sur le plancher, quelques graines, par exemple, de maïs, vous n'avez aucune chance que du maïs pousse. Bon, si vous semez dans des endroits pierreux, très durs, il n'y en a pas beaucoup plus non plus. Et Jésus, illustrant... Jésus se sert de ces différents terrains dans cette parabole pour dire ces terrains peuvent être des handicaps pour la croissance de la semence. Et il spiritualise cela ensuite en donnant l'explication de cette parabole en disant les différents terrains représentent différentes situations, c'est-à-dire différentes catégories de cœurs humains. Et dans l'un de ces terrains, il dit, il parle notamment d'un terrain où sur lequel il y a beaucoup d'épines, et on sème la semence, et les épines viennent et étouffent la semence. Et Jésus dit, ces épines, ce sont par exemple les soucis, les préoccupations du monde. Et les préoccupations peuvent atténuer la puissance de la parole de Dieu quand nous l'entendons. Les soucis du monde peuvent nous empêcher d'entendre la parole et de la comprendre parce que nous sommes préoccupés. À qui n'est-il pas arrivé de venir dans une église et d'assister à un culte comme cet après-midi, d'entendre la prédication et en fait de ne rien retenir? Pourquoi? Parce que pendant tout le temps de la prédication, ou même tout le temps du culte, parce que Dieu ne parle pas que par la prédication, il peut parler par les paroles d'un chant et par d'autres choses encore. Et qui n'a pas connu cela, tellement préoccupé par quelques problèmes, par quelques soucis majeurs dans sa vie d'être humain, il ne pensait qu'à son souci, qu'à son problème du moment, et n'entendait plus rien de la parole de Dieu. Jésus dit, il y a encore d'autres choses qui peuvent empêcher la parole de porter du fruit dans le cœur de l'homme. Par exemple, la séduction des richesses. Moi, je traduirais ça d'un mot très contemporain et très simple, qui est l'attachement au bien matériel, ou tout simplement le matérialisme. C'est-à-dire l'intérêt que l'on porte davantage, premièrement, l'intérêt que l'on porte davantage aux choses physiques, matérielles, qu'aux choses spirituelles. Et deuxièmement, étape successive, et plus importante encore, le fait de ne fonder sa vie que sur les choses matérielles. Se rassurer soi-même en se disant, de toute façon, j'ai les moyens de vivre. Hein, je ne parle pas à ceux qui sont dans la misère, j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous. Mais dès l'instant où on gagne bien sa vie, ou simplement on a de quoi vivre, eh bien, on commence à s'appuyer sur ces choses pour se rassurer dans la vie. Jésus dit que c'est sur lui qu'il faut s'appuyer. Parce que lui-même a dit, je pourvoirai à tous vos besoins, selon ma richesse et avec gloire. Le troisième obstacle qui peut parfois nous décourager indirectement, parce qu'il va nous faire oublier que notre relation en tant que chrétien est avec Dieu. Et c'est sur Dieu que nous pouvons nous appuyer et compter. Ce sont ce que Jésus appelle dans cette parabole du semeur, les plaisirs de la vie. Tout le monde sait ce que c'est que les plaisirs de la vie. Se détendre, faire du sport, je ne dirais pas que c'est un plaisir de la vie. Jésus n'a jamais été contre la détente. On sait aujourd'hui, ou peut-être on enseigne, ou on dit aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, qu'il est bon d'entretenir son corps. Je crois que nous n'avons jamais vécu une époque de l'histoire humaine où l'on n'a pas cherché à entretenir davantage son corps. Jamais quand j'étais jeune, je ne peux pas dire que j'ai 120 ans, mais j'en ai un peu moins quand même, environ la moitié on va dire. Mais quand j'étais jeune, je n'entendais pas cela autant qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas la télévision, déjà tout le monde n'avait pas la télévision, et on n'entendait pas autant de choses dites sur l'importance d'entretenir son corps, de faire du sport, d'avoir une activité physique. Alors, bien sûr, le plaisir de la vie que semble stigmatiser ici Jésus, ce ne sont pas ces choses-là, mais c'est le fait de penser, d'avoir son esprit toujours orienté vers le plaisir. Être heureux à tout prix, faire la fête, se réjouir, prendre du bon temps, pour employer un mot peut-être plus moderne et plus familier, s'éclater. C'est une expression aussi de notre époque, ça. Qu'est-ce qu'on s'éclate? Qu'est-ce que c'est bien de s'éclater? Bon, mais à force de s'éclater, on peut s'éclater véritablement. Vous le savez. Alors, Jésus dit toutes ces choses sont des tentations qui peuvent empêcher l'être humain d'avancer et qui peuvent aussi se présenter sur le chemin du chrétien et de représenter comme un fardeau, pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux, peuvent devenir comme un fardeau qui risque de nous alourdir, d'où l'expression que j'avais employée tout à l'heure, l'embonpoint spirituel, et nous empêcher d'avancer, voire nous décourager. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle également du péché. Et le péché n'est-il pas, par exemple, cette incrédulité qui va se manifester lorsque ces choses prennent de la place dans notre cœur, ou risquent d'en prendre, et que nous oublions de considérer l'objet même de notre foi, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Les Hébreux étaient passés, ou passaient peut-être à l'heure où cette lettre a été écrite, passaient par un moment de découragement qui contrastait sérieusement avec ce qu'ils avaient vécu lorsqu'ils s'étaient convertis, comme on le dit, à Jésus. Lorsque, avec joie, ils avaient même accepté les sacrifices les plus grands, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure. Ils étaient découragés, ils n'avaient pas su persévérer. Le mot persévérance est aussi un mot très mentionné dans la lettre aux Hébreux. Alors, l'auteur leur rappelle maintenant, à la fin du verset 1, il dit maintenant, si nous rejetons tout fardeau, tout péché, si nous nous rappelons que nous sommes environnés de gens qui ont vécu comme vous et moi cette même vie sur terre, cette même existence humaine, qui eux aussi ont connu Dieu, ont rencontré Dieu et qui ont su regarder à Dieu plutôt que de regarder leurs difficultés. Alors maintenant, il essaye maintenant de les ramener vers l'essentiel, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. En fait, le mot carrière est un mot qui a été traduit ainsi par nos Bibles françaises, nos premières versions il y a une centaine d'années. Mais le mot qui est employé ici, c'est plutôt le mot combat. Entrons dans le combat. C'est un mot qui a donné en français le mot agonie. Alors, ce n'est pas de l'agonie qu'il s'agit. Le mot agonie vient d'un mot grec qui veut dire le combat, la lutte. Il y a d'ailleurs, certaines langues, le mot « agonistique » ou « agonistico » en italien, par exemple, qui veut dire, qui parle de ce qui a rapport à la lutte, au combat. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, je ne pense pas du tout que ce soit l'apôtre Paul, mais on entend souvent dire cela. Je crois qu'il y a certains éléments qui montrent que ce n'est certainement pas lui, mais on n'a pas d'éléments pour dire qui c'est. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Maintenant, il faut penser à l'essentiel. Entrons dans le combat avec persévérance, le combat qui nous est ouvert. » Et dans cette deuxième partie de ce texte que nous avons lu tout à l'heure, qui a été lu tout à l'heure, nous entrons dans le vif du sujet parce que c'est là l'important de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas, c'est certainement pas une sinécure. C'est pas parce que ce n'est pas qu'au moment où nous découvrons Jésus, nous sommes sauvés, alors nous allons entrer dans une vie relaxe, pour employer un mot moderne, et nous allons pouvoir prendre du bon temps. Non. La vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat, et c'est ce que dit l'auteur de cette lettre. Entrons dans le combat, courons dans le combat avec persévérance, le combat qui nous est ouvert. Et comment doit-on entrer dans le combat ? En laissant de côté les soucis, les plaisirs qui pourraient nous asphyxier en quelque sorte, comme les épines asphyxient ou étouffent la semence, nous devons entrer dans le combat en nous rappelant premièrement que c'est un combat de foi, d'où le rappel du chapitre 11, qui est le chapitre de la foi. Et deuxièmement, en regardant dans la bonne direction. Alors, c'est un combat. Paul l'a rappelé plusieurs fois dans ses textes. Par exemple, 1 Timothée 6,12. Paul dit à Timothée, son disciple, on pourrait dire le jeune qu'il a formé. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Un peu plus loin, toujours à Timothée, il écrit, nous avons pris l'assurance en notre Dieu pour annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Et ce dernier texte, qu'il a écrit certainement peu avant la fin de sa vie, Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Ces trois textes, et d'autres encore, nous montrent que l'apôtre Paul, lui, a regardé la vie chrétienne comme un combat. Et je pense qu'il n'y a pas que lui qui en a fait l'expérience, il l'a dit parce qu'il en a fait l'expérience, mais d'autres aussi ont fait l'expérience de cela. La vie chrétienne est un combat. Jésus avait dit à ses disciples avant de les quitter, entre autres, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » On pourrait dire même que l'existence de Jésus sur terre a été un combat permanent. Combat contre le diable, combat avec les chefs religieux qui le prenaient pour un imposteur ou pour bien autre chose encore, bien plus grave. Jésus a toujours dû combattre. Parfois même, et je pèse mes mots, il a eu à combattre, mais pas beaucoup, avec certains de ses disciples qui ne comprenaient pas ce qu'il leur disait, qui essayaient de le détourner, comme Pierre qui voulait le détourner d'aller à la croix. Jésus a vécu lui-même cette vie de combat. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux, et j'en arrive à notre dernière partie, dit « Nous devons entrer avec persévérance dans le combat qui est ouvert devant nous, mais pas n'importe comment. On ne s'engage pas dans un combat sans croire qu'on a des chances de le gagner. Parce que si on croit qu'on n'a aucune chance de le gagner, à la limite, il ne faut pas s'engager dans ce combat. Hein, vous imaginez une équipe sportive qui descendrait sur le terrain en se disant, de toute façon, on n'a aucune chance. On n'a aucune chance de gagner. Très franchement, il vaudrait mieux remplacer tout de suite les joueurs par d'autres joueurs qui, eux, y croient. On sait d'ailleurs que dans la vie comme dans le sport, il ne faut jamais, pour reprendre l'expression populaire, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut jamais croire qu'on a gagné d'avance et il ne faut pas croire non plus qu'on a perdu d'avance. Mais dans le domaine spirituel, c'est encore plus important parce que, et l'auteur de la lettre aux Hébreux le dit, nous pouvons courir avec persévérance dans le combat qui nous est ouvert en ayant les regards sur Jésus. En ayant les regards sur Jésus. Voilà le secret. Voilà le secret d'une vie humaine réussie. Voilà le secret d'un service de Dieu qui connaît le succès. Ayant les regards sur Jésus. L'erreur des Hébreux, quand je dis les Hébreux, je parle de ceux des destinataires de cette lettre dont nous avons lu un extrait. L'erreur des Hébreux, c'est d'avoir regardé à leurs difficultés, à leurs persécutions, d'avoir considéré leurs pensées, d'avoir regardé en arrière et d'avoir oublié l'essentiel qui était de regarder à Jésus. Quand on regarde à Jésus, on ne peut pas se décourager. Et c'est ce que fait l'auteur de la lettre. Il dit, Jésus, pourquoi avoir les regards sur Jésus ? Parce que c'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est Jésus qui nous inspire dans la foi. Pourquoi est-ce que les disciples de Jésus, après avoir connu la frayeur lorsque Jésus a été arrêté, ont retrouvé très vite le moral, pour parler comme aujourd'hui? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu Jésus pendant environ 2-3 ans. Bon, les théologiens, les érudits, les historiens ne sont pas tous d'accord, mais pendant le temps que Jésus a été sur terre, disons environ 2 ans et demi, 3 ans, pendant 3 ans, ils ont vécu à son contact. Ils l'ont vu. Ils ont vu Jésus, ils ont entendu Jésus parler d'une manière dont personne n'avait jamais parlé. Il parlait de manière honnête, de manière sincère, il parlait avec conviction, il parlait d'une manière telle que ceux qui l'écoutaient étaient convaincus de la vérité de ce qu'il dit. Vous savez que même sur terre, même à notre échelle humaine, il nous arrive, lorsque nous écoutons certaines personnes, une fois qu'elles ont fini de parler, de nous dire « Je ne crois pas un mot de ce qu'ils viennent dire. » Et puis par contre, quelquefois, ou assez souvent j'espère, il nous arrive d'entendre d'autres personnes et de nous dire ce qu'il dit vraiment a l'air convaincant. Eh bien, quand Jésus parlait, les gens avaient cette réflexion, ce qu'il nous est cité dans l'Évangile, les gens, après l'avoir entendu, disaient « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Et les gens le suivaient. Les gens le suivaient, nous dit l'Évangile, en foule, parce qu'elles adhéraient complètement à ce qu'il disait. Ce qu'il disait était convaincant. Je me souviens, quand j'ai étudié dans l'école biblique, l'école de théologie, où j'ai été formé, enfin, en partie, pour le service de Dieu, nous avions un professeur, et il y a quelques jours, j'avais un camarade étudiant qui était avec moi à l'époque, quand nous avions une 20aine d'années, vous voyez que ça fait un certain temps, et nous évoquions ce professeur, et tous les deux nous faisions la réflexion, ce professeur est sans doute le meilleur professeur que nous n'avons jamais eu. Dans toute notre existence, je parle de école publique comme école de théologie, école biblique. Qu'avait-il de particulier ? Ce qu'il disait était convaincant. Ce qu'il disait était clair. Ce qu'il disait était toujours bien construit et ce qu'il disait paraissait d'une logique irréfutable. À tel point que certains d'entre nous, qui étions habitués, j'étais habitué à étudier quand je suis allé dans cette école, je n'avais pas arrêté d'étudier depuis mon enfance et j'étais en plein dans l'esprit des études, il suffisait de relire ces notes une seule fois avant l'examen et tout revenait en mémoire, excusez-moi l'expression, comme par enchantement. Rien n'avait été oublié pourquoi. Et nous avons découvert plus tard pourquoi. C'est pour les raisons que je viens de vous donner. Parce que cet homme parlait clairement, parce que cet homme parlait d'une manière extrêmement logique, tout s'enchaînait, tout se suivait, et parce qu'il parlait avec une grande conviction. Alors, je pense, je ne vais pas comparer cet homme à Jésus, même s'il croyait lui fermement en Jésus, il était convaincu de tout ce que dit la parole de Dieu, mais je crois que lorsque Jésus parlait, les gens l'entendaient, le comprenaient et adhéraient tout de suite à tout ce qu'il disait, parce que cela paraissait tellement évident, tellement vrai, tellement convaincant. Jésus est celui qui suscite la foi, parce que c'est lui qui nous parle de Dieu, et il ne parle pas d'un Dieu qui demande d'abord être servi, la Bible ne parle pas d'un Dieu qui exige des sacrifices, qui exige que nous fassions par exemple des pèlerinages, qui exige que nous fassions tant de prières par jour, ou bien d'autres choses encore. La Bible nous parle de Jésus comme du Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous présenter la vraie personne de Dieu. en voyant Jésus, en lisant Jésus. C'est ce qu'un jour un disciple de Jésus, un homme qui donc l'avait suivi pendant ces 3 ans que j'évoquais tout à l'heure, où Jésus a été sur terre, où il a parlé de Dieu, où il a démontré la puissance de Dieu en guérissant les malades, en libérant les gens qui étaient tourmentés, entre autres, quelqu'un a dit à Jésus, « Jésus, montre-nous le Père, montre-nous Dieu, et ça nous suffit. » Et Jésus l'a regardé, il lui a dit, il s'appelait Philippe, il lui a dit, « Philippe, ça fait déjà tellement longtemps que je suis avec vous. Ça fait environ 3 ans, tous les jours. Ça fait 1000 jours environ que je suis avec vous, que nous sommes ensemble du matin au soir, du soir au matin. Et tu n'as pas encore compris l'essentiel. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Parce qu'en fait, Jésus était Dieu. Dieu dans un corps humain. C'est pourquoi si nous voulons connaître Jésus, il nous suffit de lire l'Évangile et d'écouter ce que dit Jésus. Jésus était convaincant. Jésus parlait comme personne n'avait parlé. C'est pourquoi il est celui qui suscite la foi et qui peut l'amener à la perfection parce que lui-même a donné l'exemple de cette perfection dans sa vie. Voilà donc l'élément essentiel que l'auteur de l'Épître aux Hébreux met devant les yeux de ces Hébreux, de ces disciples de Jésus, qui étaient passés par un moment ou qui étaient peut-être encore dans le découragement, en tout cas un certain nombre d'entre eux, découragement qui les avait poussés peut-être à perdre la foi, mais peut-être tout simplement à croire moins qu'avant, ou simplement à délaisser le lieu de leur rassemblement. N'abandonnez pas votre assemblée, comme dit le texte que j'ai mentionné tout à l'heure. En tout cas, ces Hébreux avaient oublié l'essentiel de regarder à Jésus. Jésus est le seul qui peut susciter notre foi. Il est le seul qui peut nous conduire dans les voies de Dieu, à faire connaître la vérité. Jésus a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ces braves gens avaient oublié cela. Mais c'est pour ça que l'exhortation est toujours valable pour chacun de nous, parce que nous passons par des moments de découragement, sachant nous rappeler que Jésus nous appelle à une vie de combat, certes. Et c'est vrai que ce n'est pas quand on est découragé qu'on peut combattre le mieux. Mais il nous exhorte à regarder surtout à Jésus. Parce que Jésus peut fortifier notre foi, il peut la susciter de nouveau, et puis nous pouvons compter sur lui. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est aussi une parole de la lettre aux Hébreux. Que Dieu vous bénisse tous.